Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est 4h58, nous sommes le 18 janvier 2019 et telle l'équipe d'Apollo 11 à quelques minutes de la mise à feu le 16 juillet 1969. Tous les membres de Debout les copains sont au maximum de leur concentration, peaufinant le plan de vol de ces deux heures qui viennent. Comme dans l'équipage d'Apollo, certains sont confiants et décontractés, d'autres paniquent à cause d'un problème technique de dernière minute.
Europe 1.
Qu'est-ce qu'il fout sous la table, GG?
Je sais pas où on branche les casques, Philippe, il est débranché mon casque.
Je me demandais aussi ce que vous foutiez sous la table, la croix. L'espace d'un instant, j'ai cru que dans une sorte de prophétie autoréalisatrice, vous et Céline, enfin...
Ouais, non.
Oui, non. Céline Dacosta, comment allez-vous?
Mais très bien, merci Mathieu.
Est-ce qu'on peut s'attendre à un bon week-end surtout? Ou bien, j'ai encore beaucoup joué à FIFA 19.
La question qui fâche, demain c'est franchement pas terrible. Ça ira un petit peu mieux dimanche, mais demain, voilà, les températures baissent et puis on aura de la pluie et quelques flocons peut-être, on en reparlera tout à l'heure.
À vos côtés, une femme amoureuse est toujours une femme mystérieuse. Certes, mais de mystérieuse à agaçante, il n'y a qu'un paquet baroque qui est en train de franchir en refusant obstinément de nous livrer des indices sur l'identité de son nouvel amant. On connaît ses ex.
Jean-Louis Debré, Édouard Balladur, oui. Georges Pompidou, Jean-Pierre Raffarin et Roland Dumas.
Oui, on connaît, mais le nouveau, comme dirait Céline... Hein, et ben, est-ce que ce matin, là, rien contre nous, vous accepteriez de nous en dire plus? Il est sportif, c'est François Gabart.
Non, mais vous avez fini.
Mais non, je ne fais que commencer.
Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Valérie Damido. Je pose ma question aux auditeurs.
Oui.
Est-ce que vous êtes aussi bricoleur qu'elle? Est-ce que vous êtes un as du marouflage? Quelle est votre dernière réalisation
ça,
dont vous êtes le plus fier? Vous nous répondez sur Twitter avec le hashtag Europe.
Et moi, je pose une autre question aux auditeurs. Si vous connaissez l'identité du mec des baroques.
Oui.
Vous appelez 3921.
Oui.
Et
d'accord.
Hashtag Europe 1 sur Twitter.
Je mélange tout.
Mais les gens, Eva, me comprennent. Parce que les gens, eux, sont technologiquement plus doués que moi.
Non,
merci.
Vous
écoutez. Debout les copains, le 5-7 qui vous informe sans vous assommer. GG, c'est bon, maintenant vous pouvez sortir de dessous la table. Là, vous me chatouillez. L'émission commence.
Nous sommes le vendredi 18 janvier. Merci d'avoir choisi Europe 1. Et très bon réveil à tous, il est 5h. 5h-7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce vendredi 18 janvier, c'est avec vous Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous.
Les titres.
Si vous empruntez l'autoroute fréquemment sur un même trajet, par exemple pour vous rendre tous les jours au travail, vous aurez la possibilité de payer 30% moins cher le péage à partir du 1er février. Nouvel abonnement, le gouvernement l'a obtenu après négociation avec les sociétés d'autoroute. Emmanuel Macron à Souillac aujourd'hui dans le Loc, deuxième réunion dans le cadre du grand débat face à 600 maires occitans. Et puis les Bleus du handball finissent invaincus le premier tour du monde. En Allemagne, courte victoire 23-22 face aux Russes, Nicolas Karabatic a rejoué. Cap désormais sur la deuxième phase de la compétition dès demain face à l'Espagne. Une ristourne pour les conducteurs réguliers à défaut d'un gel des tarifs à la demande du gouvernement. Les sociétés d'autoroutes font un geste. Si les prix des péages, cible récurrente des gilets jaunes, augmenteront bien de près de 2% en moyenne le 1er février, ils baisseront de 30% pour les automobilistes et conducteurs de deux roues qui effectuent au moins 10 allers-retours par mois sur le même tronçon d'autoroute. Les détails, François Giffrier.
La règle se veut simple. À partir de 10 allers-retours par mois sur le même trajet, les usagers de l'autoroute pourront avoir une réduction de 30% au péage. Cela concerne 1 million d'automobilistes. Exemple, vous faites l'aller-retour Verdun-Metz 10 fois par mois sur l'A4. Votre facture mensuelle de péage passera de 102€ à 73€. Pour ça, il faut souscrire un abonnement plafonné à 2,50€ par mois. Ces nouvelles offres commerciales seront présentées sur les sites internet des sociétés d'autoroute d'ici la fin du mois pour une entrée en vigueur au 1er février. Mais à ce moment-là, les tarifs augmenteront tout de même et pour tout le monde, entre 1,8 et 1,9%. Autrement dit, quand un passage au péage vous coûtait 10€, ce sera 10€ plus 18 ou 19 centimes.
François Geffrier, près d'un million de Français est potentiellement concerné par cette réduction selon la ministre des Transports, Elisabeth Borne.
On va pas, il est 5h02.
Ils étaient plus de 600 maires mardi en Normandie pour échanger avec Emmanuel Macron pour le lancement du grand débat. Ils seront aussi nombreux aujourd'hui au Palais des Congrès de Souillac, une ville du Lot, 3750 habitants placés sous haute sécurité. Nouvel exercice oratoire pour le chef de l'État. Alors que du côté des Gilets jaunes, de nouveaux appels sur les réseaux sociaux pour un 10e samedi de mobilisation demain.
Et justement, la polémique continue sur les armes qu'utilisent certains membres des forces dans les forces de l'ordre dans les manifestations.
Les LBD, les lanceurs de balles de défense, successeurs du flashball, elles auraient blessé plusieurs dizaines de personnes depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Hier soir sur Europe 1, le le défenseur des droits, Jacques Toubon, a demandé, redemandé même, la suspension de ce type d'arme.
L'utilisation des lanceurs de balles de défense présente une dangerosité et nous avons donc, à plusieurs reprises, dit qu'il fallait suspendre l'utilisation de ces armes de force intermédiaire, mais il faut bien comprendre, en situation de maintien de l'ordre. Aujourd'hui, on peut avoir le sentiment qu'on est sorti du maintien de l'ordre pour passer au rétablissement de l'ordre. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à une doctrine de maintien de l'ordre qui comporte, de mon point de vue, le renseignement, la communication et enfin l'accompagnement,
mais Jacques
le
Toubon,
maintien de l'ordre.
Tout cela est fait.
Je n'en suis pas sûr.
Jacques Toubon, invité hier soir de Sonia Mabrouk sur Europe 1.
Et de cette question des LBD, Nico Saliagas en parlera notamment ce matin, matinale spéciale délocalisée dans un commissariat. Nous serons à Amiens après avoir été au plus près des revendications des Gilets jaunes à Mourinx. Nous avons choisi de nous intéresser au ressenti des policiers après 9 semaines de mobilisation. Rendez-vous dès 7h sur Europe.
Alexandre Benalla en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'utilisation controversée de ses passeports diplomatiques. Avant-hier, Patrick Stroda, directeur de cabinet de l'Élysée, révélait qu'il soupçonnait Alexandre Benalla de falsification de documents. L'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron doit s'exprimer devant la commission d'enquête du Sénat lundi. Le rappeur MHD, l'un des plus gros vendeurs de disques en France, placé en détention provisoire, soupçonné d'être impliqué dans une rixe qui a coûté la vie à un jeune homme de 23 ans, un règlement de compte l'été dernier entre bandes rivales des 10e et 19e arrondissements de Paris. En Colombie, 3 jours de deuil décrétés, 10 morts, 65 blessés, bilan de l'attentat à la voiture piégée hier à Bogota, le pire depuis 16 ans. L'attaque a visé l'école de la police nationale, un groupe armé illégal qui opère notamment dans le narcotrafic pourrait en être à l'origine. Et puis Mathieu, le drôle de voyage de passagers de la ligne R du Transilien hier, près de Fontainebleau, un dromadaire déambulé aux alentours des voies perturbant le trafic.
Comment ?
L'animal s'était échappé d'un cirque.
Ah, d'un cirque. Voilà. D'accord. Je croyais qu'il n'y avait plus d'animaux dans les cirques.
Bah, en tout cas, celui-là, il reste au moins un dromadaire. Il reste au moins un dromadaire.
La législation avait changé. On passe au journal des sports. Flexion, extension. Vous êtes prête, Céline ?
Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok ?
Ok, mais c'est juste une expression. Hein. On va écouter du sport. Beaucoup moins fatigant qu'en faire. Jérôme, hier, vous avez parié de manière audacieuse sur la victoire de Tsonga sur Djokovic. Résultat, 3-7-0. C'est pas pour rien qu'on vous surnomme le pif d'ici les moules. Allez, une du journal des sports. Les handballeurs français ont fait le travail.
Ils terminent le premier tour du mondial allemand, invaincu en tête de leur groupe. Un nul et 4 victoires. La dernière victoire hier soir, 23-22 face aux Russes. C'était juste, mais c'était un match sans enjeu, puisqu'avant le coup d'envoi, les Bleus étaient qualifiés pour la phase suivante et les Russes étaient eux déjà éliminés. La rencontre a surtout été le théâtre du retour de la star, Nicolas Karabatic, remis très rapidement d'une opération à un pied mi-octobre. C'était hier soir sa 300e sélection. C'était en revanche la 7e seulement pour un jeune joueur au patronyme handballesque en France. Richardson, Melvin Richardson,
le fils
de Jackson Richardson, l'ancienne superstar des Bleus. Melvin Richardson, ravi, c'était son premier match en championnat du monde.
C'est un rêve de gosse, c'est un autre rêve de gosse qui se réalise. Voilà, moi ce que je veux, c'est jouer, c'est gagner, c'est jouer avec les meilleurs. Et là, voilà, c'est une chose faite. Content d'avoir fait ma première et j'espère qu'on continuera à essayer d'élever notre niveau de jeu pour se rassurer pour la suite.
Et cap maintenant justement sur la deuxième phase, oui, avant une éventuelle demi-finale, c'est une seconde phase de groupe. Demain, 18h, l'Espagne, championne d'Europe en titre, puis l'Islande dimanche et la Croatie mercredi prochain.
Le tennis, Jérôme, et mon compatriote Roger Federer, déjà qualifié.
Voilà, pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie à Melbourne, il a filé très vite un 3 petits sets face au jeune américain Fritz, 50e mondial. Également aujourd'hui, Nadal face au tout jeune australien Alex de Minaur, 19 ans. Et puis côté français, la dernière joueuse en lice, Caroline Garcia, tentera dans la matinée de rallier ses huitièmes de finale face à l'américaine Collins, 25e mondial.
C'est un pari ou pas ?
Pardon. Non.
Ah bon. Dommage.
Non, je vais arrêter de leur porter la poisse quand même.
Oui, c'est vous le chat noir des Français.
En fait, ouais.
Le Dakar et un Sébastien Loeb, mi-figue, mi-raisin.
Oui, il finit troisième du rallye raid au Pérou. Après de 2 heures du vainqueur, le Qatari Al Attiya, le Dakar se refuse toujours à Loeb. C'était sa 4e tentative, mais tout de même pas si mal. Sa Peugeot était en effet financée par une écurie privée, donc a priori moins de moyens, et le véhicule a subi plusieurs problèmes techniques pendant les 10 étapes.
On a perdu 3 fois du gros temps dans les spéciales. Les deux qui sont devant, c'est les deux qui n'ont pas eu souci pendant toute la course. Autrement, c'est clair que globalement, on a toujours été les plus rapides sur le terrain, donc c'est encourageant, c'est sympa. En tout cas, c'est toujours un podium, c'est mieux que rien, c'est pas une victoire, mais après tous les soucis qu'on a eu, c'est pas si mal.
Et côté moto, victoire de l'Australien Price sur KTM, l'écurie autrichienne qui remporte tous les Dakar depuis 2001.
On termine, Jérôme, avec le chiffre du jour.
De cette saison en Coupe du Monde de biathlon, la star mondiale Martin Fourcade a remporté seulement 2 victoires sur 11 courses. Début de saison très compliqué pour celui qui archi-domine la discipline depuis 7 ans. Encore hier en Allemagne, Fourcade a fini 4e du sprint. Victoire pour le Norvégien Johannes Bø.
Oui, mais vous le dites bien. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Je ne sais pas vous, Jérôme, mais au prochain tour de l'Open d'Australie, moi je vois bien Herbert battre Raonic. Mais je précise à la belote, au Sofitel après le match.
Vous verrez.
Il est 5h08, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec un point météo suivi du pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis, chaque matin vers 5h10, je vous exhorte à changer de vie. Je me demande si vous m'écoutez d'ailleurs ou si vous continuez votre vie comme si de rien n'était, insensible à mes conseils. Eux en tout cas l'ont fait, le grand saut dans l'inconnu, fallait oser. Ce matin, Anne, elle était banquière, elle s'est reconvertie dans la création de bottes de luxe.
Il est 5h09, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue et c'est déjà l'heure d'un premier point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Un ciel encore bien nuageux ce matin.
Oui, c'est vrai. Surtout du sud-ouest au nord-est avec des brumes en plaine et quelques gouttes sur la région Midi-Pyrénées. Retour du soleil près de la Méditerranée avec le Mistral qui va reprendre du service. Des rafales aujourd'hui à 80 km/h et puis ça ira mieux cet après-midi. Davantage de soleil un peu partout même s'il sera souvent voilé. Mais on aura une nouvelle perturbation pluvieuse qui elle arrivera par l'Atlantique qui va nous apporter de la pluie la nuit prochaine et demain avec la baisse des températures, on pourrait avoir quelques flocons, voire pluie et neige mêlée en plaine entre la Normandie le matin, sur le centre et l'Île-de-France à la mi-journée et ensuite vers la Bourgogne. Mais le risque de neige en plaine va augmenter en particulier mardi prochain, on en reparlera.
Merci Céline. Eva Rock.
Oui, c'est l'anniversaire de Valérie Damidou. Alors on a profité de cette occasion pour vous demander si vous étiez bricoleur, si vous étiez des as du marouflage et quelle était la dernière réalisation que vous aviez, dont vous étiez fier.
C'est quoi le marouflage?
Marouflage, c'est, vous savez, pour coller notamment les papiers peints. C'est toute la, toute la procédure qu'il faut prendre.
Je fais ça tous les week-ends, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça.
Et bien alors, nos auditeurs, ils ne sont pas du tout
maroufleurs.
Pas du tout maroufleurs, ils n'aiment pas bricoler. À l'instar de Quentin qui nous dit « Je déteste la peinture, la pose des papiers peints. Je ne comprends même pas le concept de commencer par les angles. Et le papier peint que j'ai posé dans ma chambre n'est pas droit. En revanche, j'ai posé entièrement la terrasse en bois de mon grand-père sous ses instructions. »
C'est pas simple.
C'est pas mal quand même.
C'est
joli. Mais vous verrez les autres messages.
Alors ça, c'est la question que vous avez posée aux auditeurs. Mais il y en a une autre ce matin. Ne l'oublions pas. À votre avis, qui est le mystérieux amant d'Eva Rock? Vos suggestions sur Twitter, hashtag Europe 1. Évidemment, n'oubliez pas.
C'est mon Dieu.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour vous informer, vous faire marrer et aussi en prime vous inspirer. Chaque matin dans Fallait oser, Europe 1 vous fait découvrir un homme ou une femme qui un jour a osé changer de vie. Ce matin, je vous présente Anne Garnier qui nous parle patine et cirage. Elle travaille dans une banque privée lorsqu'elle a rencontré son amoureux Olivier, bottier cordonnier de métier. En 2015, ils créent tous les deux une marque de chaussures, Georges et Georges. Elle quitte alors le monde confortable de la finance, essentiellement pour 2 motifs.
Fallait oser.
Le premier, ça a été l'amour en fait. Comme je suis tombée amoureuse d'un monsieur qui était passionné de chaussures et que comme beaucoup de femmes, je l'étais aussi, il y a un moment où on a eu envie de travailler ensemble et de créer notre propre marque. Le deuxième élément, c'était la fatuité du milieu financier. L'argent qui appelle l'argent, à un moment, on ne construit rien, on ne crée rien et je n'allais rien transmettre à mes enfants. Et j'avais envie de leur transmettre non seulement une société et une marque, mais aussi la conception du fruit du travail.
Alors Anne s'occupe de la patine des souliers, il s'agit de les colorer avec des ombrés et des boisés. C'est une amie qui lui a appris la technique de base et depuis elle apprend chaque jour de nouvelles façons d'embellir les modèles que crée son compagnon.
Alors elle est extrêmement heureuse de pouvoir faire un travail concret. Sa boutique qui aura 4 ans en mai est devenue son moteur.
Georges et Georges, c'est un peu comme mon 4e enfant ou notre 8e enfant parce qu'Olivier lui-même a 4 enfants et moi j'en ai 3. C'est-à-dire qu'on y pense tout le temps, on a envie de le faire, de l'élever au sens propre du terme. Mais parfois, il nous agace, parce que soit il fonctionne pas comme on veut, soit parce qu'on aimerait en être libéré dans la tête. Mais 99% du temps, c'est notre raison de vivre. Je me lève le matin avec plaisir, je vais travailler avec plaisir. Je travaille 7 jours sur 7, 18 heures par jour, et j'aime ça. C'est un suppôt d'uranium tous les matins, quoi, d'avoir créé cette boîte.
Un suppôt d'uranium, voilà une belle expression. Anne et son compagnon Olivier espèrent développer leur collection, mais surtout conserver ce lien familial qu'ils entretiennent avec leurs clients depuis 4 ans dans leur atelier rue de Verneuil à Paris.
Et si vous vous demandez pourquoi Georges et Georges, eh bien, entre autres, c'est en hommage à Georges, le beau-père d'Anne, mais aussi pour symboliser le style masculin de leurs souliers qu'ils vendent aux hommes et aux femmes, et surtout parce qu'ils rêvent de voir Georges Clooney porter leurs chaussures haut de gamme.
What else?
Europe 1.
Il est 5h13, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures où l'info et l'humour se marient sur un coup de tête à Las Vegas. À suivre, notre page santé, cette question que se posera le docteur Ichou à la lecture d'un livre passionnant, le bonheur serait-il hormonal ?
Oh mon Dieu !
D'après une étude menée sur Céline Dacosta, oui, mais le docteur Ichou nuancera probablement cette réponse. Et puis, le meilleur de la culture sur un plateau, vendredi les Montuyaux, quelles comédies vont dégripper vos zygomatiques en 2019 ? Nous retrouverons notre envoyé spécial Mathieu Charry en direct de l'Alpe d'Huez où se déroule le festival de la comédie. Comment s'est passée votre soirée d'hier, Mathieu ?
De l'action, du combat, des jolies filles, quelques zizi.
Bien ! On nous racontera tout ça en détail. Pour l'heure, un peu de musique, Claudio Capeo, ta main sur Europe 1.
Il est 5h16. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Une ristourne pour les conducteurs réguliers. À la demande du gouvernement, les sociétés d'autoroutes font un geste et proposent un nouvel abonnement, 30% de réduction pour les automobilistes et conducteurs de deux roues qui effectuent au moins 10 allers-retours par mois sur le même tronçon d'autoroute. Emmanuel Macron à Souillac aujourd'hui dans le Lot, face à 700 maires occitans. Deuxième réunion dans le cadre du grand débat national. Enfin, Alexandre Benalla en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'utilisation controversée de ses passeports diplomatiques. Avant-hier, Patrick Strodin, directeur de le cabinet de l'Élysée, révélait qu'il soupçonnait Alexandre Benalla de falsification de documents. L'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron doit s'exprimer devant la commission d'enquête du Sénat lundi.
Europe 1.
Voici pour les titres de ce 18 janvier et tout de suite à l'heure de prendre la direction de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour les pronostics hippiques. Une question soudain me vient concernant le mystérieux nouvel amant d'Eva. Et si c'était Thierry Léger ? Oh, je connais Thierry, on peut compter sur lui pour rester impassible, ne piper mot, et enchaîner comme si de rien n'était en me disant « Oui, il y a des courses cet après-midi à Cagnes-sur-Mer », mais personne ne sera dupe. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi à Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 212 Exotique. C'est le doyen de ce quintet, mais malgré ses 10 ans, il est toujours aussi vaillant. De plus, dès qu'il prend ses quartiers d'hiver sur la Côte d'Azur en provenance de Maison Lafitte, il est transformé. Le poids des années n'a strictement aucune emprise sur son niveau de performance. À l'arrivée de cette même épreuve en 2015, 2017 et 2018, ce chic cheval devrait donc une nouvelle fois jouer un tout premier rôle grâce à son moral de jeune poulain. Alors notez bien, pour cet après-midi à Cagnes-sur-Mer, réunion 1 dans la deuxième course, le numéro 12, Exotique.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h18.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et c'est le moment tant attendu du café, des croissants chauds et de l'amitié. Ce moment où les membres de la colloque DLC se retrouvent autour de la table du petit déjeuner. Et ce matin, avec Céline Dacosta et Jérôme Lacroix, nous espérions que ça se passerait vraiment comme dans la pub Ricoré, qu'on se dirait d'Eva, c'est notre grande et son fiancé, elle est venue nous le présenter avec l'ami Ricoré. Et que nenni, c'est seul ce matin qu'avec Céline et Gélé nous avons descendu notre Ricoré, car Eva, elle, était toujours réfugiée dans sa chambre avec ce nouvel amant que nous n'avons toujours pas vu car il passe par la fenêtre. Que se passait-il vraiment dans cette chambre d'où provenaient des couinements étranges pendant que nous petit déjeunions ? Nous ne le savions pas et nous ne voulons pas savoir, même si nous avons quand même envoyé Gégé pour écouter à la porte, car c'est le plus petit d'entre nous, le plus furtif. Il s'est donc approché à pas de loup. Il a tendu l'oreille et là, très clairement, Eva était en train de donner des consignes à son amant. Pudique, elle ne parle jamais crûment, mais sa métaphore était assez facile à comprendre.
Ça ressemble à une colline qui est tapissée de gazon. En revanche, c'est détectable à l'odeur.
Bref, passons vite au pressing.
C'est pas possible.
Notre revue de presse en mode zapping, un peu de sérieux les amis. Enfin,
je parlais du linge que Mathieu avait laissé traîner. Ouais.
Libération revient sur les violences policières avec ce titre les amis. Près de 100 blessés graves circulés, il n'y a rien à voir. En gros plan, une photo des forces de l'ordre semblant viser les lecteurs avec leurs armes. Le Parisien aujourd'hui en France a choisi une photo d'Emmanuel Macron au milieu des maires dans le cadre du grand débat. Et ce titre évocateur, il est reparti en campagne. Enfin, une autre, une assez forte, celle de l'équipe. Le grand déballage, écrit le quotidien sportif à l'occasion des matchs trucs dans le milieu du tennis. Mais vous, mes insatiables patrouilleurs de l'info, qu'avez-vous trouvé dans les journaux ? Eva Rock.
Eh bien, c'est la une de La Croix qui m'a interpellée ce matin, les œuvres d'art perdues de la République, où on apprend que sur près de 500 000 œuvres déposées par les collections nationales dans les musées de France et les institutions de la République, plus de 57 500 ont été égarées, détruites ou volées. Et encore, ce chiffre ne concerne que les dépôts qui ont pu être vérifiés. Alors, à la lecture de cet article, vous allez sans doute découvrir le sens du mot récollement, qui signifie passer en revue. C'est-à-dire que le récollement consiste à partir des inventaires des institutions déposantes, à vérifier sur le terrain la présence et l'état de conservation du bien déposé. Alors depuis 20 ans, il y a une commission interministérielle qui est chargée donc du récollement des dépôts d'œuvres d'art et qui veille sur les tableaux et autres assiettes de la Manufacture nationale de Sèvres. Alors la situation s'est améliorée depuis 20 ans, mais La Croix raconte un certain nombre de disparitions d'œuvres, comme ce tableau perdu de Zampieri. Il avait été déposé par le Louvre dans un musée municipal en 1895. Le fameux tableau a été photographié dans un bâtiment municipal en 1967. Et puis il a fait l'objet d'une plainte pour vol en 2004 et la police l'a retrouvé peu après chez un notable à Nancy qu'il avait acheté chez un brocanteur. Vous imaginez le chemin du tableau en question. Autre cas, un tableau de Manessier, c'est un peintre du XXe siècle. Lui, il a été déclaré volé en 2005 à l'ambassade d'Helsinki et puis retrouvé en 2017 dans une vente aux enchères. Alors, chance, ces œuvres elles ont été retrouvées, mais quid du millier d'œuvres disparues à l'Élysée, meubles, céramiques ou tableaux envolés. Pareil dans les ministères et les lieux publics en région, la palme revenant au réseau diplomatique. Sur quelques 110 000 œuvres, dont 90% de vaisselle de Sèvres, bien seule la moitié a pu être récollée. Alors, les assiettes de Sèvres, notamment, il y a de la casse parfois.
Mais enfin, les tableaux sont animés souvent.
Voilà, mais les tableaux, ça disparaît. En 2011, par exemple, durant le conflit en Libye, il y a 8 œuvres qui ont disparu de l'ambassade et un tableau a été partiellement détruit. C'est un dossier étonnant qui est à lire dans La Croix ce matin.
Étonnant, effectivement. Ouais. Merci Eva Roch. Céline Dacosta.
Oui, moi je vous parle d'un article trouvé dans Aujourd'hui en France qui, dans ses pages région, nous parle d'une bien belle initiative, un cinémobile itinérant. C'est la société Cyclique qui s'en occupe, agence de cinéma de la région Centre-Val de Loire, avec des énormes camions qui, une fois déployés, se transforment en véritable salle de cinéma avec les fauteuils en velours et tout.
Ah oui, c'est génial, c'est
écarquer les yeux. Ouais. Et qui propose les films qui sont en salle, comme Astérix hier soir du côté de Lignières dans le Cher, à des spectateurs ravis, vous l'imaginez bien, d'éviter une heure de route pour le voir. En novembre, une nouvelle remorque est entrée en service et c'est pour ça qu'il y a ce petit article. Résultat, la remorque de l'ancien, qui s'appelle le Jean Carmé, est à vendre au prix de 18 000 euros et peut devenir une vraie petite salle de spectacle à vie aux amateurs.
On peut la mettre dans son jardin si on a un grand jardin.
Tout à fait, mais bien sûr, c'est fort possible. Alors on salue la région Centre-Val de Loire qui est la seule en France à proposer des ciné mobiles. J'étais étonnée de savoir qu'il y en avait qu'une. Et j'ai jeté un petit coup d'œil sur leur site. Un billet plein tarif, c'est 6,20 €, plutôt sympa par rapport aux grandes salles où ils tournent autour
mais
de 10
Mais on est
euros.
En plein air quand même ou
non,
c'est...
non, c'est à l'intérieur. C'est un grand salle, une grande remorque qui une fois déployée...
Il y a combien de places dans cette grande remorque?
Je n'ai pas regardé. Intéressant.
Ça doit être petit quand même.
Je vais regarder, je vous dis ça. Alors, quelques pages plus loin, on continue à parler cinéma d'aujourd'hui en France avec le palmarès des films français qui se sont les mieux exportés à l'étranger. Et visiblement, l'année 2018 n'a pas été un grand cru avec seulement 40 millions d'entrées à l'étranger contre 82,5 millions en 2017.
Ah oui,
c'est moitié moins. Un résultat décevant. Alors, apparemment, ça s'explique entre autres par l'absence de blockbusters français. Quel est le film le plus vu à l'étranger selon vous en 2018?
J'ai du mal à situer les dates d'année de sortie des films.
Une
donc
comédie?
Oui.
Oui, c'est toujours
les deux
comédies.
Premières, c'est des comédies d'ailleurs, c'est ce qui s'est
Ah, si, j'ai vu ça, c'est Taxi, non?
Oui, Taxi 5 oui. De Franck Gaston Bide. Oui. 3,5 millions d'entrées en France, 2,44 à l'étranger. Il a très bien réussi en Asie, en Europe de l'Est, en Russie et en Chine. Le Sens de la Fête est le deuxième film français. Le plus vu à l'étranger, mais c'est lui qui a rapporté le plus de sous car il s'est exporté dans des pays où les billets étaient plus chers comme l'Espagne ou l'Allemagne. Et globalement, on le disait, ce sont les comédies qui fonctionnent le mieux à l'export et c'est en Italie que nos films font le plus d'entrées. Deux articles sur le 7e art à lire dans Aujourd'hui en France.
Merci beaucoup Céline. Jérôme Lacroix.
Oui, moi je voulais revenir sur l'un des mots de l'actu en ce moment, le shutdown. Vous l'entendez peut-être beaucoup, c'est aux États-Unis, donc petite explication quand même. Donald Trump veut plus de 5,5 milliards de dollars pour construire son mur à la frontière avec le Mexique. Des crédits que refuse de lui accorder comme ça la Chambre des représentants démocrates. Conséquence, budget fédéral qui ne peut être validé. Et en attendant, le pays est partiellement bloqué, l'économie, les administrations. Alors, conséquences très concrètes, des poubelles plus ramassées dans des parcs ou encore des files d'attente interminables dans les aéroports parce qu'il y a moins d'agents de sécurité pour vérifier les bagages. Aujourd'hui, c'est le 28e jour, c'est le plus long de l'histoire. 28 jours depuis lesquels 800 000 fonctionnaires voient leur vie bouleversée et surtout leur salaire non versé. Une moitié de ces 800 000 fonctionnaires est au chômage technique parce que leur service, de toute façon, ne fonctionne plus. L'autre moitié, c'est pire, ces employés aux fonctions jugées essentielles sont obligés de travailler.
Mais gratuitement.
Mais pas payés, exactement.
Par exemple, les aiguilleurs du ciel.
Et voilà, enfin, oui, non, des fonctions. Mais... Mais ce sont les fonctions jugées essentielles qui sont dans vraiment le bon fonctionnement de l'administration. Il y a des témoignages édifiants ce matin dans Libération, essence, remboursement d'un prêt, faire ses courses, les difficultés de l'Américain moyen privé de salaire. Joanne, mère célibataire dans l'Arizona, contrainte de faire un don rémunéré de plasma deux fois par semaine. Nancy doit se rendre à la banque alimentaire. Scott et Kelly ont lancé une cagnotte pour payer le loyer et rembourser notamment le prêt étudiant de leur enfant. Alors le problème outre-Atlantique, poursuit Libé, c'est que l'Américain moyen épargne peu, à peine 6% des foyers. Du coup, ils n'ont pas grand-chose pour subsister en cas de coup dur. Voilà, il y a les crédits. Et c'est aussi dû aux habitudes de consommation de vie. On vit, bien sûr, là on parle globalement, on vit en moyenne plutôt d'un mois sur l'autre aux États-Unis. Et tout ça, c'est pire encore. Pour les plus faibles, qui ont besoin, grandement besoin des aides sociales, les mères célibataires, les handicapés, les anciens combattants, mais aussi les tribus amérindiennes.
C'est fou cette histoire. Et vous, est-ce qu'il y a des éléments sur la sortie de crise dans ces articles?
Non,
on ne sait pas encore.
Je crois
ça peut durer.
Non, je crois que ça bloque toujours parce que c'est vraiment un enjeu politique très fort entre les démocrates qui veulent vraiment mettre fin à la présidence de Trump. Quoi. Donc oui, on est parti.
Aujourd'hui, d'ailleurs, Donald Trump vient d'annuler son voyage au congrès de Davos, vous savez, chaque année. Oui. Voilà, il n'ira pas en raison justement de ce shutdown.
Merci beaucoup, Jérôme Lacroix. Merci à tous. Céline, Eva, le pressing referme ses portes. Au fait, Eva, c'est bien sûr la règle en colocation. Ce qui se passe dans votre chambre ne concerne que vous. Néanmoins, vous avez pris des photos?
Ah mais bien sûr, mais oui, je vous montrerai tout ça.
On a hâte.
Europe 1.
Il est 5h26, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent avec la météo et le journal d'Hélène Zelani à suivre. Goulayant réveil à l'écoute d'Europe 1.
Un petit verre, on a soif.
Il est 5h28, Mathieu Noël.
Céline Dacosta, quel temps pour ce 18 janvier? Je crois que c'est une matinée encore bien grise.
Oui, avec un ciel nuageux, sauf près de la Méditerranée où le Mistral fait son retour avec des rafales à 80 km/h et un ciel du coup bien dégagé. Partout ailleurs, nuages, des brumes, des brouillards, surtout dans le nord-est ce matin. Quelques averses encore dans le sud-ouest et puis déjà dans la matinée on verra arriver une nouvelle perturbation pluvieuse qui touchera d'abord la pointe bretonne et les côtes basques, le tout sous des températures en baisse comprises entre moins 3 et 4 degrés sur la moitié nord, il en fait 2 à Paris, moins 1 à 6 degrés sur la partie sud, jusqu'à 8 degrés à Toulon en ce moment.
Un peu moins de nuages cet après-midi peut-être.
Oui, on aura un petit peu plus de lumière avec un soleil souvent voilé, un peu plus de nuages tout de même des Ardennes, Lorraine jusqu'au nord de l'Alsace et puis sur la façade atlantique avec cette perturbation qui rentrera doucement dans les terres. Les températures baissent, on l'a compris, de l'air froid qui nous arrive d'Islande. 3 degrés à Strasbourg et Besançon cet après-midi. 4 à Dijon, à Lille. 5 à Paris. 6 à Rennes. 7 à La Rochelle. On aura 9 degrés à Toulouse. 10 à Nîmes. 12 à Montpellier. 14 à Nice. Et la maximale sera de 15 degrés à Bastia.
Merci Céline Dacosta.
Europe 1. 5h, 7h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains. 2 heures d'infos badigeonnées de fantaisie. À suivre, devenez ce collègue qu'on a envie de croiser à la machine à café car il est intarissable sur l'actualité culturelle, il a toujours de bonnes idées. Écoutez vendredi les bons tuyaux avec nos experts culture et notamment ce matin le monsieur ciné d'Europe 1, Mathieu Charrier en duplex de l'Alpe d'Huez où il visionne pour vous les comédies qui feront 2019. Et puis... Viens voir le docteur Ichou. Non, n'aie pas peur du tout. Il est gentil et le vendredi, c'est bibliothérapie. Il lit pour nous un ouvrage médical et nous le résume. Ce matin, un livre passionnant qui pose cette question. Le bonheur serait-il hormonal? On te casse pas, Ichou nous dira. Après tout, il est médecin. Enfin, je crois.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous réveiller. Il est 5h30. 7h, Mathieu Noël.
Les infos de ce vendredi 18 janvier 2019. Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les à la une ce matin, pardon Hélène.
Deuxième séance d'explication d'Emmanuel Macron avec des maires, cette fois dans le Lot à Souillac. Le précédent rendez-vous réussit à galvaniser le président et ses troupes. Alexandre Benalla en garde à vue depuis hier. Il s'agit de l'enquête sur l'utilisation de ses passeports diplomatiques après son départ de l'Élysée. Et puis les handballeurs français restent invaincus dans le mondial. Ils ont terminé le premier tour hier en battant les Russes 23-22. On va y revenir dans le journal des sports.
Europe 1.
Souillac, dans le Lot, 3750 habitants, attend Emmanuel Macron. Un important dispositif de sécurité est déployé pour la venue du président qui doit rencontrer plus de 600 élus d'Occitanie à 15h dans le cadre du grand débat. Le premier rendez-vous dans l'heure, il y a 3 jours, avait redonné de l'espoir à son camp. Et c'est même un vent d'euphorie qui souffle sur la Macronie, Jean-Rémy Baudeau.
Ça a reboosté tout le monde, ça donne du baume au cœur, explique un conseiller. Ça fait du bien de voir que le président peut encore convaincre, rajoute un ministre. Pour tous, l'échange entre le président et les maires est de bon augure pour la suite du débat. Mathieu Orphelin, député En Marche du Maine-et-Loire.
Ça a montré la volonté des uns et des autres de renouer le dialogue, d'apaiser le pays, de traiter de tous les thèmes, y compris les questions difficiles, mais tout ça dans le respect des positions des uns et des autres.
Sur la forme, c'est aussi la performance du président qui a séduit. Bruno Bonnel, député du Rhône.
Ça me rappelle bizarrement la campagne. Ça me rappelle l'énergie qu'il apportait aux troupes sur le terrain lors de ses discours, lors de ses interventions et qui nous permettait effectivement de créer une dynamique différente de beaucoup de notre opposition.
Pour la majorité, l'enjeu est désormais d'entretenir cet élan en évitant qu'une petite phrase où une nouvelle polémique ne vienne ternir la séquence.
Jean-Rémy Baudeau, toute manifestation sera interdite à Souillac de 8h à 23h. Hier, le défenseur des droits, Jacques Toubon, a une nouvelle fois demandé la suspension des LBD, les lanceurs de balles de défense, cette arme utilisée lors des manifestations qui a remplacé le flashball et a occasionné de graves blessures. Ce matin, Europe 1 va prendre le pouls des policiers après maintenant 9 semaines de mobilisation et de rassemblement de gilets jaunes.
Matinale spéciale sur Europe 1, dès 7h jusqu'à 9h, Nico Saliagas sera en direct d'un commissariat d'Amiens. Et à 8h15, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara.
Pas de gel des tarifs, mais une jolie économie pour ceux qui empruntent régulièrement les péages. Le gouvernement a obtenu ce geste des sociétés autoroutières. Les conducteurs réguliers auront 30% de réduction à partir de 10 allers-retours par mois sur le même trajet. Près d'un million de conducteurs sont potentiellement concernés.
On repart, il est 5h32.
Alexandre Benalla a passé la nuit en garde à vue.
Il s'agit de l'enquête sur l'utilisation de ses passeports diplomatiques après son départ de l'Élysée cet été. Devant les sénateurs, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strauda, a révélé qu'Alexandre Benalla avait utilisé presque une vingtaine de fois ses passeports diplomatiques entre le 1er août et le 31 décembre. Pierre de Cossette.
C'est une drôle de coïncidence. Sa convocation, Alexandre Benalla l'avait reçue il y a plusieurs jours, avant les déclarations fracassantes de Patrick Strauda au Sénat. Il y a 3 semaines, quand nos confrères de Mediapart révèlent qu'Alexandre Benalla a conservé 2 passeports diplomatiques après son licenciement et qu'il a voyagé avec, le procureur de Paris ouvre une enquête pour abus de confiance et c'est dans ce cadre que la police judiciaire convoque Benalla. Sauf qu'entre-temps, avant-hier, donc devant le Sénat, le directeur de cabinet de l'Élysée affirme qu'Alexandre Benalla disposait aussi à l'époque de 2 passeports de service, dont l'un obtenu auprès du ministère de l'Intérieur grâce à une lettre en tête tapée à l'ordinateur et non signée. Et donc, avant-hier, en parallèle des auditions publiques au Sénat, l'Élysée signale les faits au parquet de Paris, ni une ni deux. Le procureur élargit l'enquête de fin décembre aux infractions de faux et usage de faux. L'occasion pour les enquêteurs de la PJ de poser davantage de questions encore pour leur 2e tête-à-tête avec Alexandre Benalla. La première garde à vue, c'était en juillet pour les violences place de la Contrescarpe. L'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron avait été mis en examen dans la foulée.
Pierre de Cossette, le rappeur MHD est en détention provisoire depuis hier soir. Mohamed Silla, de son vrai nom, est mis en examen pour homicide volontaire dans une agression mortelle qui s'était déroulée à Paris en juillet dernier, liée a priori à une rivalité entre bandes. Sa voiture aurait été aperçue sur les lieux du drame, mais il clame son innocence. La circulation d'une ligne de Transilien a été perturbé par un événement pour le moins inhabituel. Hier, la présence d'un dromadaire près des voies à la gare de Fontainebleau. L'animal s'était échappé d'un cirque installé non loin de là. Il a été placé dans un enclos fermé pour éviter une nouvelle escapade. Et puis dans un tout autre genre, cette chance incroyable de 2 plongeurs près de l'île d'Oahu à Hawaï. Ils ont nagé avec un gigantesque requin blanc, l'un des plus grands squales jamais signalés. Ils ont même pu le caresser.
Caresser ? Mais quelle idée !
Une femelle de 6 mètres de long qui aurait 50 ans qui pèserait environ 2,5 tonnes. Et l'une des plongeuses qui a vécu ce moment incroyable et qui a posté le film, je vous enjoins à le regarder sur Twitter et sur Instagram, c'est assez incroyable. Elle dit que c'était juste un beau, gros et gentil colosse qui voulait utiliser notre bateau pour se gratter.
En toute simplicité.
Bien sûr.
Merci beaucoup, c'était le journal d'Hélène Zelani. À présent Hélène, comment dirais-je, last but not least,
Chéri on the cake.
Chéri on the cake, voici venir celui qui concentre tous les talents, journalisme, sport et humour. Car oui, à quelques jours des victoires de la musique, Europe 1 et Jérôme Lacroix présentent les défaites de l'humour. Favori, Jérôme Lacroix, après.
C'était des bleus couleur mental haut.
GG, le Roland Magdan d'ici les Moulineaux revient avec.
L'OM en ce moment c'est un peu olympique du nez.
C'est bon de rire, mais point trop non faux. Hein, on passe plutôt au journal des sports. À la une, l'Europe du rugby.
Les Montpelliérains veulent l'embrasser, cette Europe du rugby. Ils jouent ce soir à Édimbourg, dernière journée du premier tour de la Grande Coupe d'Europe. Les Montpelliérains, Simon Rubin, qui devront faire fort en Écosse s'ils veulent rallier les quarts de finale.
Oui, alors on ne va pas rentrer dans les comptes interminables, mais on peut résumer en disant qu'en 4 victoires ce soir, Montpellier aura presque toutes les chances d'être qualifié. Alors ça s'annonce difficile, hein. Les Montpelliérains se déplacent à Édimbourg, dans le mythique stade de Murrayfield, pour affronter une équipe qui reste quand même sur 6 victoires de suite, qui est même invaincu cette saison à domicile. Défi immense pour le MHR hein, qui rêve d'une deuxième qualification en quart de finale de Coupe d'Europe dans son histoire, après celle de 2013. Notez le retour de blessure de Bismarck Duplessis, le Sud-Africain aux 79 sélections et dont l'expérience sera bien utile au Montpellier.
Simon Rubin, Édimbourg-Montpellier, que l'on voit 20h45 à la même heure. Newcastle-Toulon, les Varois éliminés cette année dès le premier tour. Ça n'était jamais arrivé en 8 participations.
Le handball et les Bleus toujours invaincus.
Quatrième succès en 5 matchs au Mondial en Allemagne. Les Français ont hier achevé le premier tour par un succès étriqué 23-22 face aux Russes. Nicolas Karabatic a rejoué à peine 2 mois et demi après une opération à un pied. Les tricolores entament la seconde phase de groupe avant une éventuelle demi-finale. Ils affrontent l'Espagne demain, l'Islande dimanche et puis la Croatie mercredi prochain. Le tennis à Melbourne. Caroline Garcia, seule Française en lice aujourd'hui pour rallier les huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Elle affronte dans la matinée l'américaine Collins, 35e mondiale. Cette nuit, Roger Federer s'est facilement qualifié pour les huitièmes en dominant en 3-7 le jeune américain Fritz.
On termine, Jérôme, avec cette question. Qui sera, qui sera la personnalité du jour?
Pas mal. J'ai choisi Nicolas Pépé ce matin. Je vous le présente peut-être. 23 ans, footballeur, c'est l'attaquant de Lille.
Et
c'est
l'un le fils de Pépé.
Le fils de Pépé.
Bah, l'autre joueur Pépé. Non, c'est pas le portugais.
Non, c'est pas son fils.
Mais c'est une bonne intervention, Eva.
C'est l'un des tubes de cette saison. Et il porte Lille, deuxième de Ligue 1, grâce aux 13 buts qu'il a inscrit. C'est le deuxième meilleur buteur du championnat, derrière Mbappé 14, mais par exemple Pépé, eh ben, il a marqué 2 buts de plus que Neymar, voilà, et il doit jouer ce soir Pépé face à Amiens, levé de rideau de la 21e journée. Un bon génie que le propriétaire de Lille, Gérard Lopez, ne compte pas laisser filer alors qu'on est en pleine période de marché des transferts.
Il est parmi les meilleurs en Europe actuellement. C'est pas un joueur qui court les rues en termes des capacités qu'il a, au-delà des stats, hein, des capacités qu'il a. On sait qu'il est suivi. Après, je pense que tout le monde a compris. On n'est pas prêt à le laisser partir là maintenant cet hiver. Mais c'est vrai que l'intérêt a déjà été montré avant même l'hiver pour des discussions cet été. Oui.
Des propos recueillis par Sébastien Boé, Lille Amiens, coup d'envoi 20h45 et la fermeture du marché des transferts hivernal, hein, c'est le 31 janvier.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix qui, même le vendredi, hein, ne lâche rien, professionnel jusqu'au bout. En même temps, Céline connaît la devise de celui qui estime être journaliste 24h sur 24, jamais sans...
Ça capote.
Jamais sans votre carte de presse, Jérôme.
Europe 1.
Il est 5h38, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures où l'info flirte dangereusement avec le rire, à tel point que le docteur Ichou le confirme. Écoutez, une demi-heure de Debout les copains équivaut à une séance d'abdos fessiers au Club Med Gym, n'est-ce pas Céline?
On rit, je me fais les abdos.
À suivre, restez à la pointe de l'actu ciné, télé et web grâce à Vendredi les bons tuyaux. Aujourd'hui, notre envoyé spécial à l'Alpe d'Huez où se déroule le festival de la comédie nous dira quels films vont nous faire du bien en 2019. Et puis lui, il vous fait du bien tous les jours, sa chronique est comme Eva Rock.
On le prend toujours le matin parce que ça excite.
Et sans ordonnance, ce matin, le docteur Ichou a lu pour nous un livre qui pose cette question fort intéressante. Le bonheur serait-il tout simplement hormonal? Auquel cas, il y a vraiment des philosophes qui auraient bossé pour rien.
Il est 5h40, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, l'heure de faire un point sur la météo. Retour du vent et du soleil près de la Méditerranée, me dites-vous, Céline Lagosta.
Non, pas Debout les coquins. Vous avez vu venir.
J'ai failli ripper.
Oui, le Mistral se réveille à nouveau avec des rafales à 80 km à l'heure. Le soleil est donc aussi de retour. Ce matin, pour tous les autres, c'est encore bien nuageux. Ça ira un petit peu mieux cet après-midi, même si on a une nouvelle perturbation pluvieuse qui traversera la France d'ouest en est cette nuit et demain, qui arrive par la façade atlantique.
Merci Céline. Et Varoc.
À l'occasion de l'anniversaire de Valérie Damidot, on vous demande, à vous chers auditeurs depuis 5h ce matin, si vous êtes aussi bricoleur qu'elle. Et bien sur Twitter avec le hashtag Europe 1, c'est Romain Rix qui nous répond: j'aime que les choses soient bien faites, alors je fais des plans, je calcule, je me projette. En fait, je mets tellement de temps à me préparer que ma femme a pète un câble et au final, c'est elle qui fait. Merci beaucoup. Vous continuez à nous envoyer vos histoires sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci beaucoup. Et là, j'ai un message moi qui m'arrive directement, qui nous dit: je ne sais pas qui est l'amant secret des Varoc, mais je comprends la déception de Grégoire et son besoin de partir. Il nous parle de Grégoire Martinez, l'expert d'Europe 1. Bravo. Merci à vous, chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Un suppo et on lit lors de notre rendez-vous santé bibliothérapie avec le docteur Marcel Ichou. Bonjour Marcel.
Bonjour.
Vous évoquez ce matin un livre qui nous emmène à la découverte du monde merveilleux des hormones. Il est signé du docteur Marie-André Champagne aux éditions de l'Homme et il pose cette question, docteur Ichou: notre bonheur est-il hormonal et si oui, pourquoi?
Alors d'abord, la partie est très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle nous fait découvrir toutes ces hormones dont on entend parler, ces neurotransmetteurs. Si je vous les cite, vous connaissez tous ça par cœur. Les hormones, les estrogènes, la progestérone, la testostérone et les androgènes. Une hormone est une substance chimique qui fait déclencher à distance sur une glande un effet quelconque. Et puis, ces hormones sont couplées à des neurotransmetteurs dont là aussi vous avez tous entendu parler, la sérotonine, la dopamine, les endorphines. Et ces substances donc agissent de manière complémentaire sur la biologie de nos sentiments et de nos émotions telles que l'affection, l'attachement, le plaisir et le bien-être.
Ce que vous nous dites, c'est que le bonheur est question de chimie, Marcel.
Alors c'est là où moi je ne suis pas complètement d'accord. Ah. Il est incontestable que les hormones et les neurotransmetteurs sont le support de nos émotions. En revanche, je pense qu'on ne peut pas réduire nos émotions à de la chimie simple. C'est l'interaction entre notre environnement et le cerveau qui crée les sentiments. Je vais vous en faire la démonstration.
Oula.
Imaginez, Mathieu, que je vous apprenne à l'instant que votre salaire est doublé, vous avez gagné au loto, et puis d'autres
choses...
Mais
c'est le cas, je crois. Hein. Enfin, il faut que je vois, mais c'est ce qu'on...
Eh bien, vous allez tout d'un coup être envahi de sentiments qui vont plutôt être agréables. Et vous voyez bien que ce n'est pas parce que je vous ai injecté de la dopamine, de l'hormone, de l'androstérone ou n'importe quoi. Oui, vous avez les sentiments. C'est simplement l'annonce, l'information et l'émotion.
On dirait que c'est un mélange des deux. Donc, merci Dr Ichou. On vous redonne les références de ce livre très intéressant. Ça s'appelle « Le bonheur est-il hormonal ?» de Marie-Andrée Champagne aux éditions de l'Homme.
Europe 1, il est 5h43, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui jongle entre l'info et l'humour avec la dextérité d'un clown bourré. À suivre, envie d'une bonne comédie sentimentale pour démarrer 2019 ? Deux solutions, soit vous suivez « Amour, gloire et soca », la nouvelle série qui passionne la rédaction d'Europe 1, après 7 ans de célibat non désiré, Eva a récemment renoué avec l'amour. Mais pudique, elle n'a pas révélé l'identité de son amant à Céline, sa collègue de bureau, qui fait tout pour en savoir plus.
Tu as rencontré quelqu'un ?
Il est dans le sport ?
Non.
Il est chauve ?
Tu arrêtes ?
Anne, tu sais toi, pour Eva, son mec, non ? Tu sais ? Ouais, toi tu sais toi.
Elle sait. Anne, elle sait.
Soit, deuxième option, plus judicieuse, vous écoutez Vendredi les bons tuyaux. Notre envoyé spécial au Festival de la Comédie de l'Alpe d'Huez nous dira en avant-première quels sont les films qui vont vous faire le plus rire en 2019. On y vient, mais d'abord, place à la musique sur Europe 1. Et pas n'importe laquelle, celle du génial Ozier, Take Me to Church.
Europe 1, il est 5h47, Mathieu Noël.
Debout les copains continue. J'hésite toujours entre Debout les copains et Debout les copains. Les coquins, on va peut-être rebaptiser cette émission. Debout les copains continue avec Vendredi les bons tuyaux. Mathieu Charrier est en direct de l'Alpe d'Huez où se tient le Festival de la Comédie. Il boit un coup avec des copains montagnards et il arrive.
Bah, à la vôtre, hein.
C'est cette merde.
C'est de la liqueur d'échalote.
Mais c'est relevé au jus d'ail. Parce que l'échalote tout seul, ça serait trop fade.
Bien fouetté.
Il est 5h48, voici l'essentiel de l'actualité avec vous Mathieu Noël.
Une ristourne pour les conducteurs réguliers à la demande du gouvernement. Les sociétés d'autoroutes font un geste et proposent un nouvel abonnement. 30% de réduction pour les automobilistes et conducteurs de deux roues qui effectuent au moins 10 allers-retours par mois sur le même tronçon d'autoroute. En Colombie, 21 morts et 65 blessés. Bilan de l'attentat à la voiture piégée hier à Bogota, le pire depuis 16 ans. L'attaque a visé l'école de la police nationale. Un groupe armé illégal qui opère notamment dans le narcotrafic pourrait en être à l'origine. En fin du sport, les Bleus du handball finissent invaincus. Le premier tour du mondial en Allemagne, courte victoire 23-22 face aux Russes. Nicolas Karabatic a rejoué. Cap désormais sur la deuxième phase de la compétition dès demain face à l'Espagne.
Europe 1.
Voilà pour l'essentiel de l'actu de ce vendredi 18 janvier 2019. Et les amis, à l'heure de passer au pronostic hippique, j'ai une pensée émue ce matin pour José Covès. On sait en effet que José apprécie beaucoup Eva Rock, qu'il aurait peut-être voulu d'ailleurs qu'entre eux ça soit un peu plus que professionnel. José, vous venez d'apprendre qu'Eva avait rencontré quelqu'un. Quel message avez-vous envie de passer ce matin au nouvel amoureux d'Eva ?
Quand il y en a pour un, il y en a pour deux.
Ah oui, oh, c'est fair play. Bonjour José Covès.
Oui, bonjour Eva. Simplement, j'espère que tu n'as rien dit pour nous deux.
Non,
mais enfin,
j'ai rien dit, José.
À l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Non, ne dis rien Eva, s'il te plaît. L'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, la deuxième course, 18 partants, mais 5 favoris. D'abord le 10, Rebel Lightning. Il a déjà démontré qu'il avait la carrière d'un vainqueur. Le numéro 7, Pastichop, toujours à la pointe du combat, toujours dans les 5 premiers. Le 11, Namajar, dans ce handicap, c'est le meilleur rapport qualité-poids. Puis Exotic, le 12, parce qu'il galope à domicile. Attention aussi à la pointe de vitesse de Rossi. Thomas Castle, le numéro 4. Trois autres possibilités, le 8 Larnaud. Cet adepte de la course en avant peut rafler une petite place. On peut aussi choisir le numéro 1, Walek, pour l'ensemble de son œuvre. Et enfin, le 9, Wow. Il partira avec la confiance de son entourage. Chaleur. Mon ticket pour la deuxième course vers 13h47, d'abord le 10, le 7, le 11, le 12 et le 4. Et l'on ajoute le 8, l'As et le 9.
José Xotic galope à domicile. Il vit toute l'année sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer.
Pas du tout. Pas du tout. Il s'entraîne à Maison Lafitte, mais il passe l'hiver sur la Côte d'Azur. Il vit sur l'Hippodrome du Soleil, là sur sa piste de prédilection. Il a envie d'avoir envie de gagner, rien que pour l'épreuve qui nous intéresse. Il a fini trois fois à l'arrivée. Mathieu, à 10 ans, Xotic fait toujours son festival de Cagnes.
Oh, il termine en beauté, chaleur. Merci José Comès.
Il est 5h51.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains, continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici vendredi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Mathieu Charry en duplex de l'Alpe d'Huez pour le Festival de la Comédie et pour les nouvelles technologies, le Judas 2.0. Celui qui m'a coupé la chic lundi lorsqu'il m'a appris qu'il quittait Europe 1, m'arrachant cette réflexion.
J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner.
Grégoire Martinez, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Ce matin, vous nous parlerez d'un retour en force qu'on n'avait pas vu venir, pour le coup, celui du téléphone à clapet. Mais surtout, vous essaierez de ne pas vous emballer comme hier, vous vous êtes permis l'impardonnable, vous foutre de ma gueule. Il y a des cases de notre cerveau qui vont se déconnecter, une à une, et on va devenir complètement con.
Il y en a quelques-unes qui sont déjà déconnectées dans votre cerveau, non?
Misère de l'adolescence, hein. Jadis encore, je lui donnais le blédina à la béquée. Aujourd'hui, regardez-moi ça, plus insolent que mon neveu Kylian Noël. C'est honteux.
Punition.
Alors, on commence plutôt par une valeur sûre, un homme mûr qui sait respecter la hiérarchie. On le retrouve en direct de l'Alpe d'Huez, Mathieu. Festival.
Mais comment vous voulez que je fasse une chronique sur cette musique?
Festival de... C'est du cinéma aussi. Festival de comédie de l'Alpe d'Huez qui dévoilera son palmarès demain soir. Mathieu, vous avez vu de nombreuses comédies depuis mardi, mais dites-nous les trois qu'il faut aller voir dans les prochaines semaines.
Alors, je commencerai par Rebelle. L'histoire, elle est simple. Une usine de conditionnement de macro, trois employés. C'est Yolande Moreau, Audrey Lamy et Cécile de France.
N'en jetez plus, on y va.
Ouais. On y va déjà. Et un chef haillon qui, un soir, tente de violer Cécile de France. Elle lui claque la porte du vestiaire sur l'entrejambe et lui coupe littéralement le sexe. On le voit à l'écran, c'est assez particulier. L'homme meurt, évidemment. Et les trois femmes découvrent alors son sac rempli de billets qu'elles vont décider de garder. Début d'ennui avec des trafiquants belges. C'est un petit film de genre, un thriller, une comédie à l'humour noir, comme on a malheureusement trop en France. Donc il faut soutenir ce genre de film. Allez voir Rebelle, notez-le, ça sortira le 13 mars.
Dans un tout autre style, Mathieu, vous nous conseillez aussi Mon bébé, signé Lisa Azuelos.
Oui, réalisatrice, vous en rappelez sans doute de LOL il y a 10 ans, portée par Sophie Marceau, qui racontait ce moment où vous êtes un peu déboussolé parce que votre enfant est devenu ado. Là, dans Mon bébé, c'est un peu la suite en quelque sorte. C'est le temps où votre dernier enfant quitte le nid pour partir faire ses études et vous vous retrouvez seul dans cette maison devenue trop grande. Ça porte un nom d'ailleurs, ça s'appelle le syndrome du nid vide. Dans le film, la maman est jouée par Sandrine Kiberlin. La fille du film est jouée par la propre fille de Lisa Azuelos, la réalisatrice. C'est drôle, c'est émouvant, c'est tendre. Lors de la projection ici, franchement, les gens riaient. Quelques secondes plus tard, ils sortaient leur mouchoir, donc on passe vraiment par toutes les émotions. Mon bébé, notez-le, ça sort également le 13 mars et c'est vraiment à aller voir.
Enfin, dernier long métrage que vous avez repéré, Mathieu, pour nous, c'était le film d'ouverture, hein. Jusqu'ici, tout va bien.
Oui, réalisé par Mohamed Hamidi, qui lui avait fait La Vache il y a 3 ans, vous en rappelez également. Alors dans Jusqu'ici, tout va bien, il raconte l'histoire d'un patron d'agence de com, c'est Gilles Lelouch, encore lui, obligé, à cause d'une fraude fiscale, d'aller s'installer à La Courneuve, dans une zone franche, et de recruter des locaux. Alors il y a notamment Malik Bentala en maître chien qui a peur des chiens, c'est pas évident. Évidemment, c'est un film un petit peu attendu, tout le monde va s'apprivoiser, se faire avancer ensemble. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'humour permet dans ce film démonter les clichés, de parler de vraies problématiques, comme notamment le chômage dans ces banlieues. Jusqu'ici, tout va bien, ça sort le 27 février. Des comédies sociales, sociétales, comme ça, c'est vraiment la tendance qui a dominé cette année le festival de l'Alpe d'Huez.
Et ça
qui
vous
a parlé aussi beaucoup de la nouvelle conquête des Baroques.
Ah oui, j'imagine. Et bien, alors, justement, vous avez des infos là-dessus?
Bah, écoutez, j'ai pas le droit d'en parler, mais il semblerait qu'il soit quelqu'un du milieu du cinéma.
Voilà,
je peux pas tout dire.
Évidemment. Merci Mathieu de n'avoir rien dit.
Grégoire, parce qu'il sait.
Ah bah oui.
Oh la vache. Grégoire Martinez, on passe aux nouvelles technologies. Alors que les smartphones sont de plus en plus nombreux, c'est un autre type de téléphone qui est en train de revenir à la mode.
Exactement, un téléphone qu'on n'a pas vu depuis plusieurs années parce que c'est le téléphone à clapet, l'ancêtre du smartphone. Et bien figurez-vous qu'il est en train de revenir en force, ce téléphone à clapet. Alors évidemment, il a plus grand chose à voir avec ce que l'on imagine quand on pense au téléphone téléphone à clapet. Et surtout, ce n'est pas un téléphone au rabais. Hein. Samsung en a lancé en fin d'année dernière pour le marché asiatique. Et il a tout d'un smartphone, un écran tactile dernière génération, un processeur ultra puissant et un très bon appareil photo. Mais il a aussi donc ce fameux clavier physique pour composer les numéros de téléphone. Et évidemment, il se replie. Et c'est d'ailleurs dans la même idée que Motorola va relancer sa marque historique Razer qu'elle avait abandonnée il y a quelques années.
Razer, mais ça, c'est mon adolescence.
Exactement.
Vous n'étiez pas né.
Alors, j'en ai eu quand j'étais né quand même. Enfin, ça existait encore.
Son premier smartphone, son premier téléphone à clapet à 2 ans.
Et ils vont le relancer.
Oui, alors pourquoi cette tendance ?
Mais il y a plusieurs explications. D'abord, les écrans des téléphones sont de plus en plus grands, donc avoir un téléphone pliable à clapet, ça permet de gagner de la place dans sa poche. C'est plus facile à transporter et donc plus agréable à utiliser. L'autre raison, c'est la protection de l'écran, tout simplement parce que si vous faites tomber votre smartphone, l'écran, qu'est-ce qui lui arrive ?
Il se casse. Ça fait deux semaines que je casse mon écran. Voilà, alors je vais repasser au téléphone à clapet.
Le téléphone à clapet, c'est fait pour les gens de la génération. Et puis enfin, il y a une raison culturelle, pas forcément en Europe, mais les Chinois, les Asiatiques, les Coréens et les Japonais adorent les téléphones à clapet.
Merci beaucoup Grégoire Martinez. Eva Roque.
Juste très rapidement une petite info, vous pouvez être les membres d'un jury d'un festival, c'est facile et c'est passionnant. La 9e édition du Nikon Film Festival se déroule sur le web, c'est jusqu'au mois de mars. À vous de voter pour les films que vous préférez, ce sont des films de moins de 2 minutes 20, des fictions, de l'animation, des récits historiques sur un thème, celui du partage. Il y a 1249 films qui sont en compétition, donc ça vous fait beaucoup d'heures de visionnage. C'est sur www.festivalnikon.fr, il y a des petites pépites, vous allez voir ça. Et puis ensuite, dans le choix que vous aurez fait, un jury présidé par Marjane Satrapi sera chargé d'en sélectionner 50. On en reparlera prochainement.
Merci beaucoup Eva Roque, merci à toute l'équipe des Bons Tuyaux qui se retrouvera lundi. Et on embrasse aussi évidemment Mathieu Charrier en direct de l'Alpe d'Huez. Attention, ne forcez pas trop sur la gnôle, Mathieu, je vous connais.
Europe 1. Il est 5h57, Mathieu Noël.
Je n'étais plus là. À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de Céline Kallmann. Et non pas de Céline Kallmann, et non.
De Théo Manval.
De Théo Manval.
Il est 5h58, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo du jour avec vous, Céline. Un ciel bien nuageux ce matin, sauf près de la Méditerranée.
Oui, où le Mistral fait son retour avec des rafales à 80 km/h et du coup un ciel bien dégagé. Partout ailleurs, nuages, brumes et brouillards, surtout dans le nord-est. Quelques averses encore présentes dans le sud-ouest. Et puis déjà dans la matinée, on verra arriver une nouvelle perturbation. Elle sera pluvieuse et elle touchera d'abord la pointe bretonne et les côtes basques. Un peu moins de nuages dans l'après-midi, un petit peu plus de lumière du coup, avec un soleil souvent voilé. On en aura encore des nuages nombreux sur les Ardennes, la Lorraine, au nord de l'Alsace et puis sur la façade atlantique avec cette perturbation qui rentrera doucement dans les terres.
Mais surtout, l'info du jour, c'est qu'il fait froid.
Oui, et les températures vont continuer à baisser. Ce matin, elles sont comprises entre moins 3 et 4 degrés, il fait 2 degrés à Paris, moins 1 à 6 degrés sur la partie sud et puis cet après-midi, 3 degrés attendus à Metz, 4 à Lille, à Clermont-Ferrand, 5 à Paris, 6 à Cherbourg, 7 à Limoges, on aura 9 degrés à Brest et à Tarbes, 10 degrés à Biarritz, 12 à Perpignan, 13 à Toulon, la maximale est de 15 degrés, elle sera pour Bastia.
Merci Céline.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.